Radio Okapi.
Présenté par Grace Hamzati, voici le sommaire. Lancement ce vendredi des épreuves préliminaires de l'examen d'État édition 2025 sur toute l'étendue de la République, excepté les zones occupées par les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Plus de 13 000 candidats sont attendus à ces rendez-vous, nous dira tout à l'heure Blaise Dongala. De multiples cas de tuerie et autres bavures sont enregistrés dans la ville de Bukavu depuis son occupation par le M23. La nuit dernière, des hommes armés ont tué deux personnes au quartier d'Endere, dans la commune d'Ibanda, pendant que dans plusieurs autres quartiers de la ville, les habitants ont passé la nuit sous des crépitements de balles. L'invité de ce midi est Fabien Mayani, un cadre du consortium Congo n'est pas à vendre. Il parle des déséquilibres dans l'Avenant 5 à la Convention sino-congolaise. Sa structure déplore qu'une année seulement après sa signature, cette clause ait entraîné un manque à gagner de plus de 130 millions de dollars pour l'État congolais. Mesdames et messieurs, bonjour. Éducation pour commencer. Les préliminaires de l'examen d'État et du jury national du cycle court de l'édition 2025 ont débuté ce vendredi sur toute l'étendue du territoire national, excepté les zones sous occupation rebelle. Selon les données de l'Inspection générale de l'éducation nationale, au moins 13 242 candidats répartis dans 259 centres prennent part à ces rendez-vous pour le cycle long, alors que 76 candidats sont inscrits dans 15 centres pour le cycle court. Plus de détails avec Blaise Ndongala. Mayanda.
La ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté, a choisi l'Institut de la Gombe 1 pour lancer officiellement ses épreuves nationales en présence de nombreuses autorités de son secteur, dont le ministre provincial de l'Éducation de Kinshasa et l'inspecteur général de l'Éducation nationale. Pour elle, ce moment est un porteur d'espoir car le système éducatif national poursuit son chemin malgré les contextes difficiles. À cette occasion, Raissa Malou a exhorté les candidats à faire preuve de rigueur et de responsabilité tout au long de ces épreuves certificatives pour participer de manière efficiente au développement du pays.
Chers candidats, restez concentrés, faites preuve d'honnêteté intellectuelle et donnez le meilleur de vous-même. Vous êtes non seulement les bâtisseurs de votre propre avenir, mais aussi les citoyens porteurs des valeurs qui feront rayonner notre nation.
Elle a ainsi exprimé la volonté du gouvernement d'organiser une session spéciale pour récupérer les candidats se trouvant dans des zones sous occupation rebelle.
L'État, conscient de son devoir, mettra en place une session spéciale afin qu'aucun candidat ne soit privé à son droit à l'éducation.
Il faut noter que 17 autres candidats passent ces examens dans les deux centres hors frontières situés en Angola, précisément à Cabinda et à Luanda.
Blaise Ndongala Mayanda, pendant ce temps, des dizaines de candidats autodidactes du Nord Kivu ne participent pas à cette épreuve préliminaire de l'examen d'État 2025 lancé ce vendredi sur l'ensemble du territoire national. En cause, le report par le gouvernement congolais de cette épreuve. Ces derniers évoquent les raisons sécuritaires qui ne permettent pas d'organiser ces rendez-vous. Plusieurs entités au Nord Kivu étant occupées par les rebelles du M23. L'Association nationale des parents du Congo, ANAPECO, salue cette décision qu'elle qualifie de responsable et de mûrie. Elle déplore cependant le fait que les enfants soient victimes de cette situation. Elle exhorte les autorités nationales à tout mettre en œuvre pour que cette année ne soit pas une année blanche au Nord Kivu. On écoute Steve Diatezoa, président national de l'ANAPECO, au micro de Denis Lukeso.
Quoique une mesure bien réfléchie, mais nous sommes tout de même éplorés dans la mesure où nous aurions voulu que l'épreuve se passe au même moment sur l'ensemble du territoire national. C'est pourquoi nous exhortons les autorités nationales, notamment le chef de l'État, de tout faire pour que cette année ne soit pas perdue pour les finalistes du Nord et du Sud Kivu. Il faut que rapidement interviennent nos forces armées pour libérer ce territoire et rétablir l'ordre et les services administratifs qui permettront aux élèves et aux étudiants de vaquer librement leurs occupations pour que l'année ne soit pas une année blanche.
Justement, le gouvernement annonce une session spéciale pour les candidats finalistes du Nord Kivu 1, Sud Kivu 1 et 3. Du côté sud Kivu, les écoles ne fonctionnent pas depuis 3 semaines dans plusieurs entités du territoire d'Uvira. C'est à la suite de la psychose observée dans la zone depuis la prise de Kamanyola dans les territoires de Walungu par les rebelles du M23. La société civile locale redoute que cette année soit déclarée blanche pour des milliers d'élèves. Le point avec Martial Kizabiamungu.
Deux écoles publiques et privées de Katogota, Bouegira, Luvungi, Sangé, Kiliba ne fonctionnent plus il y a plus de 3 semaines. La plupart d'élèves et enseignants ont fui l'avancée des rebelles du M23 à la plaine de la Ruzizi. Certaines se sont réfugiées au Burundi et d'autres vers la Tanzanie. Selon la société civile d'Uvira, cette situation est similaire aux chefs-lieux de ces territoires où même les institutions universitaires n'ouvrent plus leurs portes. Freddy Moudeba indique que cette situation risque de pousser des milliers d'élèves et étudiants à une année blanche. Il demande au gouvernement de tout faire pour restaurer la paix dans cette région pour sauver cette année scolaire.
On est mis encore à Kamanyola. En tout cas, les parents ont du mal à envoyer leurs enfants à l'école et c'est comme ça que jusque là vraiment il n'y a pas même l'espoir que les enfants puissent rentrer à l'école et c'est pourquoi nous demandons que le gouvernement fasse tout pour que la paix revienne dans le sud Kivu pour permettre peut-être aux enfants de pouvoir fréquenter les études parce que l'école c'est quelque chose qui est très important dans la vie.
Il ajoute que la non-scolarité de ces enfants les expose aux actes rétrogrades dans la société.
Nous l'avons dit dans les titres, la ville de Bukavu au sud Kivu demeure instable sur le plan sécuritaire depuis son occupation par le M23 soutenu par le Rwanda. Des hommes armés non autrement identifiés tuent, volent, violent et pillent. La nuit d'hier, ces malfrats ont tué 2 personnes et fait plusieurs blessés parmi la population civile au quartier Ndendere dans la commune d'Ibanda. Au même moment, des crépitements de balles ont retenti dans plusieurs autres quartiers dans les communes d'Ibanda, Kadutu et Bagira. Le chef de quartier Ndendere, Albert Migabo Nyagaza, raconte ce qui s'est passé dans son entité. Suivez.
C'est avec douleur que je peux m'exprimer ce jour. Hier, les voleurs mais armés ont sillonné nos avenues. 17 maisons ont été visitées. Ils ont arraché la vie à la fille qui devrait se marier incessamment, son frère de 20 ans, en état critique à l'hôpital maintenant. À l'heure où nous parlons, il est dans la salle d'urgence. Nous demandons à la population de nous organiser pour désorganiser ces malfrats qui nous endeuillent du jour au jour. Nous demandons aux autorités d'occuper les postes de police qui sont restés inoccupés jusque maintenant et aussi organiser des patrouilles avec nos jeunes volontaires qui nous facilitaient déjà la tâche et nous permettre encore d'utiliser les radios Motorola qui nous aidaient en cas d'alerte aux personnes en détresse.
Et dans les territoires de Lubero, au nord Kivu, les rebelles du M23, soutenus par le Rwanda, se sont retirés hier des Kaeri, une localité située à plus ou moins 35 km de Lubero centre. Selon la société civile locale, ces rebelles se sont retirés sans combat et l'armée ougandaise, UPDF, l'a occupée, s'interposant des faits entre les deux forces en présence. Pour le moment, c'est une accalmie qui est observée dans la région. N'est-ce pas, André Kitenge?
C'est depuis le dimanche 2 février que les rebelles du M23 avaient occupé la localité de Kaeri après des affrontements avec les FRDC. Selon des sources locales et sécuritaires, après 5 jours d'occupation, les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda se sont retirés de Kaeri pour se replier à Kasuo, une localité située à 15 km de Kaeri et 50 km à l'ouest de Lubero centre où ils sont présentement concentrés. Les mêmes sources rapportent que ce sont les soldats de l'armée ougandaise UPDF qui occupent pour le moment cette localité. Difficile pour le moment de savoir d'où serait venu l'ordre du retrait des rebelles du M23 de cette localité. Toutefois, précisent nos sources, le M23 reste présent à 15 km de Lubero centre. Malgré ce retrait, la société civile se dit préoccupée par le risque de nouveaux affrontements dans la région. Pour l'instant, indique l'armée, une accalmie est observée sur l'ensemble des lignes de front dans le territoire de Lubero.
Merci à vous, André Kitenge. Par ailleurs, les récentes atrocités des groupes armés dans les territoires des Djougou ont brisé la cohésion sociale entre les communautés dans certaines localités du territoire des Djougou. De nombreux habitants et commerçants sont cloisonnés dans leurs entités par peur de tomber dans des embuscades des hommes armés. Comme conséquence, les conditions de vie sont difficiles pour la majorité de la population qui n'accède pas aux champs et aux marchés communautaires. Les opérateurs économiques ont également de la peine à se ravitailler en marchandises. Radio Kapibunya, Isaac Remoyope.
Les habitants de plusieurs villages dans les territoires des Djougou ne se fréquentent pas depuis la série d'attaques qui a fait plus de 60 morts il y a 3 semaines. Certains centres se trouvent ainsi enclavés, Ar et Fata qui en secteur de Walindu Dzatsi, Lindu, Laoudjo, Boulé, Drodro dans les Baïma Badjere et Baïma Nord. L'accès aux champs est difficile par peur des hommes armés. Même les marchés communautaires qui accueillaient des milliers de gens des différentes ethnies sont quasi déserts. La vie est devenue intenable pour la majorité de la population qui sollicite l'intervention des autorités en vue de renforcer la cohabitation pacifique.
Ces derniers jours ne sont pas encore allés vers Fatah qui, suite au drame survenu récemment, nous avons peur, nous voulons la paix, nous sommes un.
De nombreux commerçants qui achetaient des marchandises à Bounia, chef-lieu de la province, au centre commercial d'Endrele dans les territoires de Maagi ou en Ouganda, se disent bloqués depuis un mois. Certains envoient de l'argent à travers des maisons de messagerie financière à leurs collègues pour leur faciliter les achats, mais avec beaucoup de risques de se faire escroquer.
Si c'est tout le cas,
nous achetions des marchandises dans des entités proches. Nous ne pouvons plus y accéder. Le commerce est devenu difficile. Nous plaidons pour la libre circulation.
Les chefs coutumiers des Djougou sensibilisent souvent leurs administrés au vivre ensemble. Mais leurs efforts sont souvent affaiblis par les violences des groupes armés à caractère communautaire. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Dans l'actualité, sachez aussi que la première ministre Judith Suminwa poursuit sa tournée dans la province du Congo central dans le cadre de la campagne Congolais Téléma. Entendez, Congolais, lève-toi pour défendre la patrie. C'est jeudi, elle a visité le centre d'instruction des commandos de Tombangadio, situé dans le secteur des Palabala, dans les territoires de Songololo. La chef du gouvernement a dans son message à l'endroit des nouvelles recrues au sein des forces armées de la RDC rappelé les efforts que le gouvernement est en train de conjuguer pour améliorer les conditions socio-professionnelles des hommes en uniforme. On écoute l'extrait de son message que nous propose Nana Plurichimambu.
Nous n'avons qu'un seul pays. Nous n'en avons pas deux. L'ennemi ne peut pas venir comme nous avons vu à l'est à Goma, à Bukavu et dans d'autres localités où le Rwandais et les M23 étaient entrés. Ce n'est pas une bonne chose. Chacun, là où il se trouve, doit se lever pour défendre notre terre. Vous, les nouvelles recrues et futurs soldats, vous allez défendre notre pays avec les capacités que vous êtes en train d'acquérir ici au centre de recrutement et de formation. Donc, je veux vous dire aujourd'hui que nous, le gouvernement, ne vous avons pas oublié. Nous devons vous soutenir. La mobilisation est totale. Nous, membres du gouvernement et d'autres institutions, avons commencé une collecte pour l'effort de guerre. Cet argent, en plus de ce que le gouvernement met dans le cadre de son budget, va vous aider afin que vous soyez dans les bonnes conditions.
Après le centre d'instruction de Tombangadio, la première ministre Judith Suminwa a tenu un meeting populaire à Kimpesi, toujours dans les territoires de Songololo, avant de se rendre au camp militaire Ebeya, dans le territoire de Mazangungu, pour encourager les militaires qui y habitent. Cette autre nouvelle sur la radio de la paix. Bientôt, la Société nationale d'électricité SNEL Kwilu va basculer du système de paiement des factures d'électricité après consommation en système de prépaiement dans la ville de Bandundu. Déjà, un lot important des compteurs prépayés et autres matériels est disponible et la SNEL va procéder à l'installation de ses premiers compteurs chez ses abonnés. Cette annonce a été faite hier par le directeur provincial de la SNEL Kwilu, l'ingénieur Prosper Bakukuwanza, lors d'un point de presse organisé à Bandundu. Il invite la population de Bandundu à se préparer pour accueillir ce système de prépaiement qui, selon lui, est très avantageux tant pour les clients que pour la SNEL. Les propos de l'ingénieur Prosper Bakukuwanza sont sélectionnés par Irène Bomalozolo.
Bon, nous avions quand même voulu entrer en contact avec nos amis de la presse pour que nous puissions expliquer que la SNEL est en train de passer au prépaiement dans la ville de Bandundu. Je crois que dans les très prochains jours, nous allons commencer à implanter le premier compteur et ça sera de façon progressive puisque bon, ça demande vraiment un grand investissement. Nous sommes en train d'assainir les réseaux quant à ça, nous sommes en train d'implanter de nouvelles cabines. Ce système permettra à ce que chaque client puisse gérer soi-même sa consommation. Et ça nous permettra, nous, au niveau de la SNEL, d'économiser de l'énergie et de faire respirer nos équipements, d'éviter beaucoup d'avaries, de transfert, de pannes de câbles. Donc, c'est vraiment un bon système. Je crois que les clients vont le constater. C'est une décision qui est prise au niveau du gouvernement qui a voulu que les clients puissent payer ce qu'ils consomment réellement. Et puisqu'avec le système de prépaiement, les gens vont gérer rationnellement l'électricité. Quelqu'un achète peut-être ce kilowattheure de 5000. Il va gérer ça de soi-même. Nous n'allons plus avoir le système. Non, non, voilà. Moi, je n'avais pas utilisé l'électricité. On est venu me facturer. Non. Tout client qui a un abonnement SNEL aura droit à un compteur gratuitement.
Actualité internationale.
Plus de 180 personnes sont portées disparues après le naufrage de 4 embarcations transportant des migrants au large du Yémen et de Djibouti, annonce ce vendredi l'agence de l'ONU pour les migrations OIM, ajoutant ne pas avoir pour l'heure d'informations sur les nationalités des personnes disparues. Et puis, l'armée soudanaise poursuit sa longue progression dans la capitale Khartoum. Elle a également réalisé quelques progrès il y a quelques jours dans des localités du sud du pays. Les paramilitaires des forces de soutien rapide répliquent à Khartoum en frappant à l'artillerie lourde des quartiers résidentiels de la capitale. Hier, des bombardements ont fait plusieurs victimes parmi des écoliers.
L'invité.
Le consortium Congo n'est pas à vendre relève des déséquilibres dans l'avenant 5 à la convention sino-congolaise. Dans une interview accordée à Radio Okapi, un des cadres de cette structure, Fabien Mayani, déplore qu'une année seulement après sa signature, cette clause ait entraîné un manque à gagner de plus de 130 millions de dollars pour l'État congolais. Pour éviter de nouvelles pertes, il propose que les institutions du pays, dont la présidence de la République, le Parlement, le gouvernement et les comités exécutifs de l'ITIE-RDC, prennent des mesures drastiques. Fabien Mayani s'entretient avec Blaise Ndongala Mayanda.
Bonjour monsieur Fabien Mayani.
Bonjour monsieur journaliste.
Quelle analyse faites-vous de l'avenant 5 à la convention sino-congolaise une année après sa signature?
Cet avenant pose énormément de problèmes parce qu'effectivement la convention de 2008 avait été signée dans l'objectif de développer les infrastructures en RDC et aussi développer un projet minier. Mais ce que nous constatons, c'est que l'avenant numéro 5 a lieu et place de rééquilibrer les intérêts des partis, notamment les intérêts là. RDC, l'avenant crée beaucoup de problèmes, notamment le fait que l'avenant conditionne le financement des infrastructures par le prix du cuivre sur le marché international. Ça, c'est un problème sérieux. Donc, si le prix du cuivre baisse, la RDC n'aura pas de financement pour les infrastructures. Et ça, ça nous étonne que des pareilles clauses soient contenues dans l'avenant 5. D'autre part, nous avons constaté que dans l'avenant 5, on ne parle pas du cobalt, qui est l'un des minéraux clés aujourd'hui dans la transition mondiale vers les énergies vertes et on ne comprend pas comment le cobalt n'est pas pris en compte dans les calculs des financements des fonds à verser à la RDC pour les financements des infrastructures. Pour nous, l'avenant 5 pose plus de problèmes que l'accord initial lui-même.
Où est-ce que vous situez la cause des déséquilibres relevés dans cet avenant?
Oui, parmi les causes, d'après nos analyses, il n'y a pas une préparation suffisante de la renégociation du côté de la RDC. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que d'après nous, Congo n'est pas à vendre. Le gouvernement congolais aurait dû préalablement procéder à des audits, à des évaluations du projet SICOMINE aujourd'hui pour savoir exactement combien on a investi dans les infrastructures et aussi auditer les infrastructures réalisées. Le volet minier également, auditer l'investissement qui a été réalisé dans le volet minier, auditer, avoir une idée plus claire sur la production, sur les bénéfices, sur les revenus générés. Tout ça, ça n'a pas été fait. La question de la préparation est très importante dans la négociation, des contrats miniers. Malheureusement, nous n'avons pas vu une bonne préparation du côté du gouvernement congolais. Un autre élément que nous avons noté, c'est comment on a mis en place la commission de renégociation. Est-ce que on a défini de manière claire les termes de référence de la commission? C'était quoi que la commission de renégociation devait faire? À ce jour, il n'existe pas un document clair du gouvernement qui détermine les termes de référence qui devraient normalement déterminer le travail à faire par la commission. Et pour nous, le premier travail à faire, c'était d'auditer le projet minier de manière exhaustive. Et la bonne manière de le faire, le gouvernement congolais, d'après nous, aurait dû recruter un cabinet spécialisé qui fait l'audit du projet et qui donne les résultats. Et cela permettrait à la RDC d'avoir des éléments factuels.
Dans votre note, le consortium Congo n'est pas à vendre parle de plus de 30 millions de manques à gagner en l'espace d'une année. Alors, qu'est-ce que vous proposez au gouvernement congolais pour rectifier les tirs?
La première des choses que nous proposons au gouvernement congolais, c'est d'abord d'auditer le projet SICOMINE, le volet infrastructure et les volets miniers pour savoir exactement combien on a investi, la qualité des infrastructures qui ont été réalisées, est-ce que les montants qui ont été déclarés représentent réellement les montants qui ont été investis dans ces infrastructures. L'autre chose que nous recommandons vivement au gouvernement congolais, c'est de mettre fin au modèle de la convention sino-congolaise parce que cette convention a démontré ses limites. Ce que nous demandons au gouvernement congolais, c'est de soumettre le projet SICOMINE au code minier de la République démocratique du Congo tel qu'il a été révisé en mars 2018. De sorte que la SICOMINE paye les impôts et taxes comme tous les autres projets miniers et ces impôts et taxes vont financer les infrastructures. Comment on peut utiliser juste moins de milliards pendant 16 ans pour un budget initial prévu de 3 milliards de dollars. Donc, nous pensons qu'il faut appliquer le code minier de la République démocratique du Congo. La SICOMINE va commencer à payer les impôts et taxes et l'État va utiliser ces taxes-là pour financer les infrastructures.
Monsieur Fabien Mayani, nous vous disons merci.
Merci.
Notre invité répond aux questions de Blaise Ndongala Mayanda. Ainsi s'achève ce radio-journal coordonné par Jude Mister Bilanda et supervisé par Alei Rung. Billy Landry Beto a assuré la mise en onde et grâce à Mzati Masanzi était la présentation. Ce journal est à réécouter sur notre site internet www.radiocapi.net. Merci pour votre confiance à la fréquence de la paix.